Ce matin, j'avais prévu de vous parler du chrétien et de la colère, mais ce thème n'allait pas avec la triste nouvelle du décès de Frida survenue jeudi dernier. J'ai donc pensé bon de vous parler plutôt ce matin de l'espérance chrétienne. Frida est aujourd'hui dans la lumière et la paix, comme cela a été souligné aussi dans nos prières, comme jamais auparavant. Elle expérimente des bénédictions que nous avons du mal à nous représenter. Et un jour, elle retrouvera un corps lors de la résurrection et nous la reverrons. Quant à nous ce matin, nous allons, à partir de la parole de Dieu, méditer justement sur ce thème de l'espérance. Et c'est avec humilité que nous aborderons ce sujet, car si la parole de Dieu nous dit de façon sûre et certaine et affirme avec force l'espérance de la gloire, cette même parole de Dieu nous dit finalement peu de choses sur la nature exacte de la vie qui nous attend. Le missionnaire Jim Elliot a écrit ceci. « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut garder » afin d'acquérir ce qu'il ne pourra perdre. J'aime bien cette phrase car elle exprime à la fois ce qu'il en coûte d'être disciple de Jésus et la récompense qui y est attachée. Il est clair que la foi en Jésus a un coût. Jésus lui-même a dit « Celui qui veut construire une tour doit s'asseoir pour calculer la dépense. » Mais d'un autre côté, la récompense de la foi dépasse l'entendement. Le pardon des péchés, l'adoption dans la famille de Dieu, l'établissement d'une relation avec notre grand frère Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit, la libération de l'esclavage du péché, la communion fraternelle au sein de l'Église locale et universelle, la résurrection finale avec la glorification de notre corps, la vie éternelle dans une nouvelle création. Toutes ces choses sont des promesses que Dieu nous fait en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, verset 9, nous dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement l'assurance d'être protégé de la colère de Dieu, c'est bien plus encore, c'est l'établissement d'une nouvelle et saine relation avec Dieu, la joie de sa présence pour toute l'éternité. En d'autres termes, c'est gagner ce qu'on ne peut pas perdre, c'est-à-dire la citoyenneté du royaume de Dieu. À partir du moment où quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, sa vie change. Quelquefois, on n'en a pas l'impression, il n'y a pas à ce moment-là forcément de pluie, de confettis, de concerts de trompettes, de chœurs d'anges, et pourtant, c'est bien ce qui se passe au ciel. Tout change à partir du moment où nous sommes transportés dans le royaume du Fils de Dieu, pour reprendre une expression de Colossiens chapitre 1, verset 13. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu est un thème important dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même prêchait constamment sur ce sujet. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il nous est dit de Paul aussi qu'il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute assurance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux se réjouit de ce que les croyants reçoivent un royaume inébranlable. Pierre encourage ses lecteurs en leur rappelant qu'ils seront pleinement accueillis dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Enfin, le livre de l'Apocalypse, dans ce livre nous pouvons lire « Maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ ». Mais en quoi consiste-t-il exactement ce royaume ? S'agit-il d'un territoire, d'une propriété sur laquelle Dieu a un droit particulier, exerce une autorité particulière ? S'agit-il de l'Église ? Est-il ici-bas et maintenant ou devons-nous l'attendre encore ? Et puis qui en fait partie réellement ? Le règne de Dieu ne s'étend-il pas à tout le monde, qu'on croit en Jésus ou pas ? Ne faisons-nous pas tous partie du royaume et ne pouvons-nous pas tous travailler à son établissement ? Voilà les grandes questions qui se posent et que nous pouvons nous poser à propos du royaume de Dieu. Et je vais tenter d'y répondre, pas en les prenant une par une, mais de façon générale, en examinant ce thème du royaume de Dieu dans l'Écriture. Et en premier lieu, le royaume de Dieu est le règne de Dieu sur son peuple. Dans la parole de Dieu, la notion de royaume de Dieu s'apparente plus à une royauté, ce que nous appellerions, nous, une royauté, qu'à un royaume dans le langage courant. Le royaume de Dieu représente le gouvernement, le règne et l'autorité de Dieu. Psaume 145, versets 11 à 13 nous dit « Ceux qui sont fidèles diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. » Dans un certain sens, il est vrai qu'il n'existe pas dans l'univers le moindre centimètre carré ou le moindre individu qui échappe au règne divin et qui soit en dehors de son autorité. Dieu a tout créé, il règne sur tout ce qui existe, il jugera toute la création. Toutefois, dans la Bible, l'expression « royaume de Dieu » se réfère d'une façon spécifique au règne de Dieu sur son peuple, ceux qui lui appartiennent. On parle d'ailleurs quelquefois de règne rédempteur de Dieu, pour parler de l'autorité de Dieu sur les hommes et les femmes sauvés par Jésus-Christ. Pour redire les choses encore autrement, le royaume de Dieu, c'est la direction que Dieu exerce sur le peuple racheté par Jésus. Deuxièmement, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Jésus le déclare. Le royaume de Dieu est proche, il s'est approché de nous et même, on peut dire, il est arrivé. Il est inauguré. Depuis des siècles, le peuple juif attendait le Messie pour qu'il établisse le règne de Dieu. Et c'est ce dont nous nous souvenons aussi particulièrement dans cette période de l'Avent, qui est la période de l'attente du Messie. Et voilà qu'un ex-charpentier reconverti dans l'enseignement leur annonce que ce moment auquel ils aspirent tous est arrivé. De plus, il prétend que c'est en sa personne que le royaume de Dieu est inauguré. Lorsque les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons au nom de Satan, Jésus leur répond « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Ce que Jésus affirme ici, c'est que la délivrance de son peuple, telle que Dieu l'avait annoncée déjà dans l'Ancienne Alliance, vient de commencer, le royaume est arrivé. L'incarnation de Jésus, du Fils de Dieu, est bien plus qu'une visite de courtoisie de la part du Créateur. C'est le déclenchement de la contre-offensive finale contre le péché, la mort et la destruction qui ont envahi le monde depuis la chute de nos premiers parents. Jésus résiste à la tentation au désert. Il effleure les yeux de l'aveugle de naissance, puis instantanément, l'aveugle retrouve la vue. Jésus plonge son regard dans l'obscurité d'un tombeau et s'écrie « Lazare sort du tombeau » et la faucheuse, comme on l'appelle, voit sa lame émoussée. Sur la croix, enfin, Jésus s'écrie que tout est accompli. Et à la résurrection, la mort elle-même est vaincu. La victoire sur le péché est totale. La parole de Dieu ne nous laisse aucun doute à ce sujet. La victoire de Jésus-Christ acquise à la croix est parfaite, totale. Pas à pas, touche après touche, Jésus anéantit définitivement les conséquences de la chute. Le roi de ce monde est arrivé et tous les obstacles se dressant contre lui et l'établissement de son royaume, le péché, la mort et Satan sont fermement écartés. Cela signifie que nous bénéficions déjà d'une partie des bénédictions du royaume, la réconciliation avec Dieu, l'adoption dans la famille de Dieu, le don de l'Esprit, etc. Mais il s'agit là d'une partie des bénédictions du royaume, car pour l'instant nous avons, comme le dit la parole de Dieu, les arts de l'héritage. Le royaume de Dieu n'est pas encore établi de façon complète et il ne le sera pas avant le retour du roi. Ce qui peut paraître très logique quand on le dit comme ça. Et c'est là le troisième point. Jésus a annoncé qu'un jour le royaume sera prêt pour la moisson. Ce jour-là, des anges arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, versets 41-43. Jésus évoque à ses disciples également le jour où il boira du vin nouveau avec eux dans le royaume de Dieu. Nous attendons encore la pleine délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Voilà, c'est là maintenant plutôt troisièmement, effectivement, l'espérance de la nouvelle création. Nous lisons en Ésaïe 65, versets 17 et 19, « Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Et ce jour-là, comme nous le dit encore Ésaïe 11, verset 9, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme l'eau recouvre le fond de la mer. Certains chrétiens s'imaginent parfois qu'ils seront assis au ciel pour rendre un culte éternel à Dieu. Et cette pensée contient du vrai, mais elle n'est pas tout à fait conforme à ce que nous lisons dans la Bible sur l'éternité. L'intention de Dieu est de créer pour son peuple, un monde totalement renouvelé, sans péché, sans mort. La guerre disparaîtra, l'oppression cessera, Dieu demeurera avec son peuple pour toujours. Fini le désespoir, disparu les douleurs et les sanglots. Devant une telle espérance, que pouvons-nous dire d'autre que « Seigneur, reviens ». Ce merveilleux royaume qui vient, nous ne pouvons pas l'établir par des efforts humains. Qui en effet peut m'expliquer comment faire pour qu'il n'y ait plus de guerre ? Comment faire pour qu'il n'y ait plus de mort ? En dépit de toute notre application à essayer de rendre le monde meilleur, aussi bonne et sincère soit-elle, cette application et nos motivations, le royaume promis par la Bible ne viendra réalité que lorsque le roi Jésus reviendra lui-même pour l'établir définitivement et complètement. Certes, les croyants que nous sommes peuvent faire bénéficier à la société de quelques réformes. Cela est déjà arrivé, cela peut encore advenir aujourd'hui ou dans le futur. Dieu en sera glorifié dans le monde, mais je crois que les Écritures nous forcent à reconnaître que, jusqu'à ce que Jésus revienne, ce n'est pas nous qui établiront le royaume de Dieu sur la terre. Nos contributions sociales ou culturelles resteront fragiles et précaires. Les croyants ne pourront jamais établir le royaume de Dieu, car Dieu seul en est capable. Nous n'en sommes pas capables. La Jérusalem céleste descendra du ciel, elle ne s'élèvera pas à partir de la terre. Et cette vérité nous pousse à fixer nos regards sur le roi qui vient, Jésus lui-même. Au lieu de nous reposer sur une institution, une activité ou une autorité humaine ou des projets fantastiques, voire sur nos propres efforts pour redresser la société, nous levons les regards vers le ciel et nous crions à Dieu « Reviens, Seigneur Jésus ». Avec raison, nos espoirs sont moins fondés sur le royaume à venir que sur la personne du roi lui-même. Quatrième point. Notre accès au royaume est conditionné par notre attitude vis-à-vis du roi. Jésus est très clair à ce propos. Il dit « Suis-moi ». Et à de nombreuses reprises, Jésus tire une ligne de démarcation claire entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. On peut par exemple lire l'histoire très claire où il y a une différence nette qui est faite entre les brebis et les boucs. Je vous renvoie au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. À la fin de ce texte, la différence entre le « venez » et le « retirez-vous de moi » dépend de l'attitude de chacun face au roi Jésus. Il n'est pas étonnant que Jésus fasse dépendre notre entrée dans son royaume de notre foi en sa personne, puisqu'il est le roi et c'est lui qui nous sauve. Devenir citoyen du royaume de Dieu ne consiste pas seulement à vivre la vie du royaume ou à suivre l'exemple de Jésus. Nous devenons citoyens du royaume de Dieu quand nous venons au roi lui-même par la foi et la repentance. La seule façon de faire partie du royaume de Jésus-Christ est de venir au roi, pas seulement en lui rendant hommage pour avoir été un exemple merveilleux, nous avoir indiqué une meilleure façon de vivre, mais en plaçant humblement notre confiance en ce Seigneur de gloire, crucifié pour nos péchés. Seule son œuvre à la croix peut nous ouvrir les portes du royaume, et Jésus lui-même dira « Je suis la porte ». La porte de quoi ? La porte du royaume de Dieu, par laquelle nous entrons, cette porte qui est petite, car il faut nous baisser pour y entrer. Cinquièmement, lorsque par la foi nous sommes transportés dans le royaume de Dieu, l'Esprit Saint nous donne une vie nouvelle. Cette vie nouvelle est une vie d'obéissance au roi. Et je vais vous lire maintenant un passage relativement long, mais qui en vaut vraiment la peine, en Romains 6, les versets 4 à 13. Et donc le texte s'affichera aussi derrière moi. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes appelés à un comportement digne du royaume de Dieu, une vie nouvelle. Nous sommes même appelés à briller comme des flambeaux dans la nuit, nous dit Paul dans le deuxième chapitre des Philippiens. Comment briller ? Sans doute pas en se mettant en avant, sans doute pas comme cela, mais en pratiquant des œuvres bonnes. Et ces œuvres bonnes, notre témoignage, sont la conséquence de notre identité de citoyen du royaume et non un moyen d'entrer dans le royaume. La Bible nous apprend que l'Église existe pour exprimer dès aujourd'hui cet avant-goût aussi de la vie du royaume. Bien imparfaitement, sans doute, mais un avant-goût quand même présent. Éphésiens 3, versets 10 et 11 nous dit « Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur. » Ce verset est extrêmement fort. Il nous dit que l'Église est le lieu privilégié, choisi par Dieu pour exposer sa sagesse et sa gloire, y compris d'ailleurs devant le monde invisible, le monde spirituel. Car le royaume de Dieu est encore plus que l'Église. Mais Dieu choisit de manifester sa gloire et sa sagesse dans l'Église. On peut dire sans se tromper, même si le royaume de Dieu dépasse la notion de l'Église, on peut dire sans se tromper que dans l'Église, nous sommes appelés à vivre un avant-goût du royaume de Dieu. La sagesse de Dieu est visible dans l'Église. Grâce à Jésus, des ennemis se réconcilient. L'Esprit Saint agit pour reconstruire des vies, et cela se vit souvent dans le cadre d'une vie d'Église. C'est encore dans l'Église que les membres du peuple de Dieu ont des occasions formidables d'apprendre à s'aimer, à porter les peines les uns des autres, à pleurer et à se réjouir ensemble, à être mutuellement redevables. C'est cela, le royaume de Dieu. Bien sûr, l'Église n'est pas parfaite, mais elle n'en demeure pas moins une belle expression de la vie du royaume dans un monde qui a besoin du salut. La vie du royaume et les efforts pour rester fidèles au roi ne sont pas choses faciles tous les jours. Nous pouvons même être méprisés pour notre foi dans notre société sécularisée et pluraliste. Nous pouvons même être, dans certains pays, persécutés pour notre foi, exécutés pour notre foi. C'est dur. Satan est rusé, mais notre espérance est certaine. Et la victoire de Jésus-Christ est totale. La parole de Dieu ne nous laisse pas le moindre doute à ce sujet. Alors permettez-moi, une fois n'est pas coutume aussi, de conclure cette prédication avec une citation qui n'est pas biblique. Une citation du Seigneur des Anneaux, écrite par un certain Tolkien, qui se réclamait lui-même, par contre, de Jésus-Christ. Et c'est le passage où, après un millier de kilomètres, les héros arrivent à la partie la plus sombre de leur voyage. Et nous pouvons lire ceci. « Loin, au-dessus de l'Eiffel Douat, à l'ouest, le ciel nocturne était encore terne et pâle. Là, Sam vit, pointant au milieu des nuages légers qui dominaient un sombre pic haut dans les montagnes, une étoile blanche et scintillante. » Sa beauté lui poignit le cœur, tandis qu'il la contemplait de ce pays abandonné. Et l'espoir lui revint, car tel un trait, net et froid, la pensée le transperça qu'en fin de compte, l'ombre n'était qu'une petite chose transitoire. Il y avait à jamais hors de son atteinte de la lumière et une grande beauté. Amen.